chapitre 13. Très courtement, bien sûr, ce sera plus une exhortation que une prédication. Luc chapitre 13, versets 18 à 20, qui est donc un texte qui, pour nous, aujourd'hui, complétera celui de Actes que nous avons lu au début du culte. Luc chapitre 13, versets 18 à 20, où il est écrit, c'est Jésus qui parle, et il dit encore, à quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Amen. Lorsqu'on lit le passage de Actes chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, le passage de la Pentecôte, on peut avoir plusieurs sentiments différents. Quand on lit Actes 2 et qu'on voit la puissance de Dieu qui descend, quand on voit le Saint-Esprit qui remplit des langues de feu qui descendent sur les uns et les autres, on peut avoir un premier sentiment qui est un sentiment d'encouragement. On peut être tout content, se dire « Waouh, le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux, il fait des grandes choses » se sentir encouragé de ce que Dieu fait. Mais on peut aussi avoir un sentiment de découragement quand on lit ce genre de texte. On peut se décourager en se disant qu'il y a quand même un grand écart entre ce que les croyants vivaient à cette époque et ce que nous vivons aujourd'hui. On peut se dire, mais en fait, eux, ces croyants-là, ils voyaient la puissance de Dieu. Eux, ils voyaient la grâce de Dieu. Eux, ils avaient des manifestations extraordinaires et nous ne voyons rien. On pourrait avoir comme réaction de se dire, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Des choses extraordinaires qui se passaient. Et on pourrait donc en arriver à avoir un sentiment de désespérance et de se demander, mais faut-il désespérer de l'Église de Jésus-Christ? Et c'est le thème de cette exhortation. Faut-il désespérer de l'Église de Jésus-Christ? On sait que la Pentecôte, c'est un moment très spécial pour l'Église. Certains théologiens disent même que ce serait le moment de la naissance de l'Église. C'est le moment le plus extraordinaire. Et on est tous tentés de se dire que ça devrait être tous les jours comme ça, puisque c'est ça la naissance de l'Église. On pourrait se dire, mais ça c'est l'étalon, ça c'est le modèle de ce que nous devons voir tous les jours et nous attacher à ce modèle. Et donc par rapport à ça, on peut avoir des discours très minimalistes, à l'inverse, en disant, ben, vous savez, l'Église, on fait notre minimum, on fait comme on peut. On peut être une petite église sans puissance, avec des gentils chrétiens. On peut vraiment se dire, bon ben voilà, n'attendons rien d'extraordinaire, parce que de toute façon, nous n'aurons rien. On peut avoir aussi un discours défaitiste par rapport à l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble. Un discours qui consisterait à dire que les carottes sont cuites, que ça ne sert plus à rien de se battre, que tout le monde a pris la place, que l'ennemi a rempli le monde et que donc ça ne sert à rien d'avancer. Et rappelez-vous, dans la Bible, quand ça a été le moment de la conquête du pays de Canaan, Dieu a permis que des explorateurs aillent voir le pays pour donner un retour de comment était le pays. Et ces explorateurs ils sont revenus et ils ont donné un retour du pays. Et ils ont parlé de ce qu'ils avaient vu. Ils ont dit, oui, c'est vrai que c'est un beau pays, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays difficile, où il y a des grands défis, il y a les descendants d'Anak qui sont là. On a vu des gens qui portaient une grappe de raisin sur deux hommes. Et finalement, cette description de la terre de Canaan a eu pour effet de décourager tout le peuple. Vous vous souvenez de ce texte? De décourager tout le peuple. On peut aussi, nous, Église de Jésus-Christ, avoir parfois ce genre de réaction quand on se compare à Actes 2 et qu'on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ça aujourd'hui? On peut avoir un discours morose, un discours dans lequel on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas d'envie, on n'a pas de dynamisme. Et à l'inverse, on peut aussi avoir un discours exalté, c'est-à-dire un discours où, justement, on dirait, mais ça devrait être comme ça tous les dimanches, on devrait tous les dimanches avoir un vent impétueux qui passe dans la salle et tomber tous par terre, et puis que des langues de feu descendent sur les uns et les autres, et puis que, on peut aussi avoir ce genre de discours. Alors rapidement, très rapidement, quelques raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de désespérer de l'Église de Jésus-Christ. Quelques raisons. Premièrement, nous n'avons pas à désespérer de l'Église de Jésus-Christ parce que l'esprit de la Pentecôte est encore à l'œuvre aujourd'hui. Cet esprit qui a permis à l'Église d'avancer, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer ce message de délivrance, ce message de guérison, ce message de restauration, cet esprit est toujours à l'œuvre aujourd'hui au milieu de nous. C'est un esprit que Dieu a donné à l'Église pour qu'il habite l'Église. Et Dieu est encore aujourd'hui à l'œuvre au milieu de son peuple pour équiper son Église pour l'œuvre qui est nécessaire. Dieu est encore à l'œuvre pour nous donner les dons spirituels nécessaires. Dieu est encore à l'œuvre pour nous donner la sagesse nécessaire. Dieu est encore à l'œuvre pour nous donner la vision, l'inspiration nécessaire. Dieu est encore à l'œuvre pour susciter en nous des forces, des capacités qui viennent d'en haut. Cet esprit de la Pentecôte est encore là aujourd'hui. Nous savons que c'est par l'esprit que nous pouvons faire des grandes choses. Et cet esprit, il est là au milieu de nous. Et nous croyons aussi que l'esprit de la Pentecôte n'est pas un esprit du passé, c'est aussi un esprit qui est un esprit de miracle. Un esprit qui fait des choses extraordinaires. Alors beaucoup aujourd'hui sont découragés parce qu'ils estiment ne pas voir justement les miracles qu'il y avait au temps des apôtres. Et très souvent, en fait, on se rend compte qu'on comprend mal certaines choses. Et pour aller rapidement, si vous prenez la question de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, est-ce que dans la vie de Jésus, nous voyons un épisode comme celui-là ? Est-ce que pendant que Jésus était sur terre, nous voyons à un moment donné le Saint-Esprit qui descend et qui fait parler des gens dans des langues qu'ils ne connaissent pas ? Est-ce que, nous allons voir juste après, est-ce que pendant la vie de Jésus, nous avons à un moment donné l'information que Jésus va, comme Pierre, permettre la conversion de 3000 personnes ? En une prédication. Jésus a terminé sa vie avec quelques disciples, avec tous ses disciples qu'il avait abandonnés d'ailleurs, et Pierre prêche une fois, et voilà que 3000 personnes se convertissent. Si l'on doit réfléchir comme ça, on devrait arriver à la conclusion qu'en fait Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, ou qu'il n'avait pas la foi. Pourquoi est-ce que l'épisode de la Pentecôte n'a pas eu lieu pendant le ministère de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le récit de moments extraordinaires comme ça qui se passent pendant le ministère de Jésus? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et que les miracles et les choses extraordinaires dépendent de la souveraineté de Dieu. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas voir le ciel qui tremble, parce que ce sont des choses que Dieu fait quand il a décidé et comme il le veut. Dieu avait prévu que ça arrive à ce moment-là, au moment de la Pentecôte. C'est arrivé ce jour-là, pas avant, pas après. Dieu a ouvert les portes pour que Pierre puisse faire un grand discours qui a converti des foules, parce que c'était le temps de Dieu. Hier, j'étais dans un rendez-vous chrétien au Spiroudôme. Vous voyez le Spiroudo, rempli de chrétiens, des centaines de chrétiens qui sont là, pleins de foi, qui prient. Nous n'avons pas vécu l'événement de la Pentecôte. Et on n'a pas vu de langue descendre sur qui que ce soit. Il n'y a pas de vent impétueux qui est passé. Qu'est-ce qu'il faut se dire qu'on n'avait pas la foi? On n'a pas envie de voir ça? Ce n'était pas le temps de Dieu. Nous n'avons pas à nous préoccuper des manifestations extraordinaires, nous avons à croire que Dieu est puissant, qu'il fait des grandes choses, et à le laisser souverain de faire ce qu'il veut, quand il le veut. On dit souvent, on le rappelle, mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de gens qui sont morts au temps de Jésus. Jésus n'a pas guéri tous les malades qui étaient là. Il y en a plein qui sont morts. Il est passé à côté de plein de paralytiques qui n'ont pas marché. Il est passé à côté de plein de personnes malades qui n'ont pas été guéries. Ce sont des choses qui dépendent du temps de Dieu, qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Nous ne devons pas désespérer, pourtant, parce qu'il y a encore pour aujourd'hui des ressources divines pour notre temps. Dieu a encore les moyens, les ressources pour faire ce qu'il veut faire aujourd'hui, pour sauver aujourd'hui, pour délivrer aujourd'hui au travers de cet esprit de la Pentecôte. Très souvent aussi, on a le tort de se décourager par rapport à l'Église de Jésus-Christ parce que l'on fait fi de l'avancement entre les époques. Très souvent, on oublie qu'entre le moment où les textes que nous lisons dans Actes et aujourd'hui, il y a un gap très important. Pour donner un exemple, on parle des conversions. On dit qu'il a converti 3000 personnes le même jour. C'est extraordinaire. Et certains disent, mais c'est pas normal, l'Église de Jésus-Christ n'est nulle part, parce qu'on ne vit pas ça et qu'on n'a pas 3000 conversions par jour. Mais prenez simplement la Belgique. Si vous voyez le temps de l'époque de Jésus, l'époque où se déroulent ces textes-là, ce sont des temps dans lesquels les peuples entiers sont religieux. Ça veut dire que tout le monde croit en quelque chose. D'accord ? Les gens croient en quelque chose. Les Grecs avaient leur dieu, ils avaient la mythologie, ils croyaient qu'il y avait quelque chose en haut. Les Juifs connaissaient le Dieu d'Israël. Tous les gens dont nous parlons dans cette époque-là sont des gens qui avaient un rapport au divin dans lequel ils avaient une notion de quelque chose. Et c'est sur ce terrain-là, le terrain de la notion de « il y a quelque chose en haut » qu'on apportait l'Évangile, qu'on annonçait Jésus et que des gens finalement venaient à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel la majorité des gens, aussi en Belgique, ne croient même pas qu'il y a un Dieu. Ils ne croient même pas qu'il y a quelque chose en haut. Vous voyez l'idée ? À l'époque, tout le monde avait cette intuition-là. Les Grecs, parfois, ne savaient pas nommer ce Dieu. Il y avait des religions dans lesquelles on s'essayait. On connaît même en Égypte des tentatives de parler de cette chose qu'il y avait en haut. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, dans la rue de Baïmont, plein de gens vont vous dire qu'il n'y a rien. Alors évidemment que c'est plus compliqué de convertir 3000 personnes aujourd'hui qu'avant. C'est ridicule de se désespérer pour ça. C'est normal. C'est aussi normal parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité ne fait qu'avancer, ne fait que grandir. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, tu verras, dans les temps de la fin, ce sera de pire en pire. Les hommes s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Nous n'avons pas à nous désespérer. D'autres aussi se désespèrent parce qu'ils considèrent que l'Église du Nouveau Testament était une Église parfaite, extraordinaire, où tout était beau, où on voyait la puissance de Dieu tous les jours. Mais on ne peut arriver à cette conclusion qu'en se contentant de lire Acte 2 et Acte 3. Parce que si on lit après Acte 2 et Acte 3, on va se rendre compte que l'Église du Nouveau Testament, c'était une Église comme nous. Comme nous. Une église qui avait ses problèmes comme nous. Dans Acte 5, on voit des chrétiens qui ne sont pas consacrés, des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Pensez à Ananas et Saphira, qui vont mentir devant les apôtres du Seigneur. Dans Acte 6, dispute entre chrétiens. Dans Acte 15, des coups durs pour l'église, persécution, mort d'Étienne. Bizarrement, Dieu fait des miracles, mais il ne délivre pas les gens qui sont persécutés. Étienne se fait tuer. Acte 15, verset 2, conflit entre des croyants. Acte 15, verset 36, séparation entre Paul et Barnabas, des serviteurs de Dieu qui se séparent. Plus loin, les fils de Skeva, des serviteurs de Dieu imposteurs. On a dans la Bible aussi, dans les Actes et dans d'autres passages, on nous raconte à quel point certains annonçaient des fausses doctrines. On nous parle de croyants qui sont tièdes, de croyants qui acceptent le péché, de croyants qui ont oublié leur premier amour. L'Église du Nouveau Testament, c'était une Église comme la nôtre, avec ses problèmes. C'était une Église où il y avait des conflits. C'était une Église où il y avait des chrétiens pas consacrés. C'était une église dans laquelle il y avait le péché parfois qui était accepté par certains. Nous n'avons pas à idéaliser ce temps-là et à dénigrer ce qui se passe aujourd'hui, mais au contraire, nous pouvons croire que Dieu manifeste sa gloire, que Dieu manifeste sa puissance encore aujourd'hui et qu'il a les moyens de le faire aujourd'hui pour sa gloire. Enfin, nous ne devons pas désespérer parce que Dieu fait de grandes choses avec peu. Le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 13 et qui est aussi dans Matthieu en fait chapitre 13 nous parle de la puissance de Dieu et il nous parle de la puissance de Dieu au travers de cette image du royaume de Dieu qui est comme une graine de sénévé qui n'est comme rien du tout et qui plantée dans le sol fait un arbuste et cet arbuste abrite tous les oiseaux du ciel. Il nous donne aussi l'exemple du levain qu'on met pour faire du pain et qui fait lever toute la pâte. Et au travers de cela, Jésus est en train de nous encourager, de nous dire, le royaume de Dieu, il est bien là, il est bien présent, il est certes immatériel, il n'est pas forcément visible, il n'est pas forcément extraordinaire, mais il est bien là, le royaume de Dieu, et l'évangile n'a pas encore fini de faire lever toute la pâte. Et Dieu est encore en train de sauver des hommes aujourd'hui. Dieu est encore aujourd'hui en train de délivrer des âmes du péché. Dieu est encore en train aujourd'hui de révolutionner des vies, de transformer des vies et d'attirer des personnes à lui. Nous ne devons pas désespérer. Dieu fait encore des grandes choses aujourd'hui. Nous avons seulement à nous inquiéter des conditions de présence de l'Esprit et conditions d'action de l'Esprit. Il est vrai que c'est des choses qui dépendent de la souveraineté de Dieu, mais nous avons quand même à veiller à être toujours disposés à ce que l'Esprit puisse agir. En étant des chrétiens consacrés, en nous consacrant à la prière, comme c'était le cas dans Actes chapitre 2, ils étaient dans un même lieu et ils priaient régulièrement ensemble. C'était une église de prière, ils vivaient dans l'unité, ils vivaient dans la crainte de Dieu. Ça, nous avons à nous en occuper. Nous n'avons pas à nous occuper des miracles que nous voyons, que nous ne voyons pas, mais nous avons à nous occuper d'être l'Église que Jésus a voulu, d'être l'Église consacrée qui aime Dieu, qui veut voir sa gloire, qui est assoiffée de sa présence, de rester fidèle à l'Évangile, de désirer être conduit par le Saint-Esprit et de laisser Dieu faire ce qu'il veut, de laisser Dieu régner et de laisser Dieu nous manifester sa gloire. Ne désespérons pas de l'Église de Jésus-Christ. C'est le jour de la Pentecôte, c'est un jour aussi où nous devons retrouver l'audace des premiers chrétiens et de ne pas nous dire ils étaient extraordinaires et nous ne sommes rien. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ aujourd'hui. Et nous avons à continuer l'œuvre de Jésus dans les conditions dans lesquelles nous sommes, difficiles, dans un monde de ténèbres, dans un monde d'athéisme. Nous avons à continuer la grande œuvre de Jésus. Amen.